Bonjour Jacques Delplat.
Bonjour.
Ravi de vous voir. Ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu, économiste. Vous avez fondé et vous présidez un fonds destiné à financer des actions de décarbonation qui s'appelle Climatech.
Oui, c'est pour lancer, c'est pour faire un peu de, on va dire, d'arbitrage sur le prix du carbone.
Ça veut dire quoi, faire un arbitrage ?
Eh bien, faire investir dans des projets de décarbonation dans des endroits où c'est pas cher.
D'accord.
Et les revendre plus cher à des gens qui recherchent des crédits carbone.
D'accord. On essaiera de dire un mot du prix du carbone, parce que c'est votre cheval de bataille, je le vois bien. Éric Ayer, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances publiques, et vous avez coécrit Une autre voie est possible, vers un modèle social écologique chez Flammarion Champs Actuels. Et Philippe Martin, bonjour.
Bonjour.
Doyen de l'École des affaires publiques de Sciences Po et membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. La récession, est-ce qu'il faut la redouter, Éric Ayer, ou pas ? La plupart des économistes disent qu'on ne peut pas y couper, que ça va arriver, en dépit d'ailleurs des décisions de politique monétaire.
Bon, attends, il faut s'entendre sur récession, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est un trimestre, deux trimestres de négatif, vous voyez, ou est-ce que c'est un peu plus structurel ? Est-ce que ça va être une année 2023 en négatif, etc. Bon. Oui, alors, comment on peut le faire déjà sur le très court terme ? On peut regarder les enquêtes de conjoncture. Bon, ça peut nous aider à essayer de comprendre que nous disent ces enquêtes. C'est que globalement, on devrait éviter la récession. Bon, vous voyez, quand on prend même les enquêtes de l'INSEE, de la Banque de France pour la France, ou même les enquêtes IFO, bon, globalement, on est sur un zéro plus. Donc, on n'est pas, on peut pas encore dire à travers les enquêtes qu'on va être en récession. Moi, il me semble que ce qui est un peu plus intéressant, c'est de se dire pourquoi aujourd'hui, on a très peu de croissance. Parce que, vous voyez, on peut prendre un peu de recul par rapport à 2019. Vous voyez, l'Allemagne produit la même chose 3 ans après la crise qu'en 2019. Bon, quelque part, on peut considérer que c'est une sorte de récession, une récession par habitant. Le PIB par habitant est plus faible aujourd'hui qu'avant la crise. En France, on n'est que 1% par rapport à 2019, c'est une croissance très faible. Alors que, vous voyez, quand on revient il n'y a pas si longtemps, en 2021, ce qu'on prévoyait pour 2022, c'était 4% de croissance, c'était énormément de croissance. Comment on a pu passer de 4% de croissance à finalement une zéro en glissement ? Parce qu'il y a eu différents chocs. Alors, regardons ces chocs. Problème d'approvisionnement notamment en Chine, avec la fermeture au début des années, de l'année 2022. Crise énergétique avec des prix qui explosent. Augmentation des taux d'intérêt des banques centrales qui a fait que globalement, ça a renié la croissance. Bon, incertitude liée à la guerre. Bah, regardons où on en est aujourd'hui. Bah, l'approvisionnement, effectivement, on avait des bons signaux. Vous voyez, la Fed de New York nous disait, ça y est, le niveau d'approvisionnement revient quasiment à son niveau pré-crise. Et puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend, patatras, que la Chine referme une partie, en tout cas à cause de la Covid, donc c'est pas du tout réglé. Donc oui, grosse crainte que ce problème d'approvisionnement refasse surface et rogne. Sur les prix de l'énergie, donc c'est comme ça que vous avez... Bah, c'est vrai qu'on a plutôt des meilleures nouvelles aujourd'hui qu'au mois d'août, puisqu'effectivement le prix du baril descend, le prix du gaz descend, le prix d'électricité descend, mais ça reste à des niveaux extrêmement élevés. Alors c'est sûr que ce choc-là est moindre, et potentiellement, on peut avoir un signal plutôt positif. Mais attention, là, c'est plus les prix le problème, c'est la quantité. C'est qu'il risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement et donc des délestages et donc des fermetures. Bah oui, tout ça, ça met de l'incertitude. Mais moi, je crois, entre nous, la principale, et je pense que c'est dans vos sujets, donc on va en parler, c'est ce que vont faire les banques centrales. Et ça, je crois qu'effectivement, il y a tous ces signaux-là, mais on ne les maîtrise pas. Entre nous, on ne peut pas dire ce que va faire la Chine. On peut pas... Par contre, on peut maîtriser ce que fait la banque centrale. Et moi, je fais partie, alors je pense qu'on ne sera pas tous d'accord autour de la table, que si on augmente trop vite les taux d'intérêt, alors là, on va tout droit vers la récession. Et c'est un peu... Est-ce qu'on pense que le mal aujourd'hui, c'est l'inflation ? Et qu'il faut à tout prix la casser, quitte à faire une crise. Voilà.
Bah oui,
alors, dans ces cas-là, on a la réponse. Donc, il y aura récession, mais on ne pourra pas s'en plaindre, on la souhaite. Et on l'a fait. Ou est-ce qu'on dit non, on peut l'éviter? Donc, par des politiques économiques un peu plus modérées, d'accord ? Parce que c'est le mal absolu, c'est la récession, l'augmentation du chômage, l'augmentation des déficits, la dette. Vous voyez, quand vous avez une récession, la dette explose. Voilà. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une autre politique ? Mais vous voyez, là, du coup, c'est un peu les banques centrales qui ont la main.
Alors, justement, Philippe Martin, Jacques Delplat, d'abord, est-ce qu'il faut vraiment lutter contre l'inflation ? Jacques, vous considérez que ce n'est pas l'ennemi, Jacques Delplat ?
Ben, d'abord, le choc externe négatif qui vient avec la crise de l'Ukraine et la crise énergétique, c'est de l'ordre de 3 à 4 points de PIB.
D'accord.
Toutes choses égales par ailleurs, on est moins riche de 3 à 4 points du PIB, chiffre Banque Centrale Européenne.
Oui, c'est les chiffres de l'OFCE aussi.
Ouais. Donc, je ne vois pas avec ça comment on ne peut pas être en récession, comment on peut éviter la récession. Le trend, il était probablement autour de 2%, moins 4, ça fait autour de moins 2.
Mais d'accord, bah on peut la freiner, on a bien vu que la politique monétaire en France
chose,
a freiné l'inflation. Mais...
Donc je... Deuxième chose, à chaque fois qu'il y a eu des chocs pétroliers externes, on se rend compte que quand on n'a pas remonté les taux d'intérêt suffisamment, l'inflation a continué, on a l'expérience des années 70, 80. Troisième chose, le mandat de la Banque Centrale Européenne est extrêmement simple. D'abord et avant tout, la stabilité des prix. Aujourd'hui, l'inflation en Europe est de un peu plus de 10%, et le core inflation, l'inflation hors énergie et produits frais, est à 5,5%. Donc, par n'importe quelle métrique, une inflation core à 5,5%, ça veut dire que les taux d'intérêt doivent monter. Je ne sais pas quand on a réduit très fortement l'inflation avec des taux d'intérêt négatifs.
En tout cas, certains pensent qu'il faut changer le mandat de la Banque centrale. Ouais. Philippe Martin, par rapport à ce qu'on s'est dit et au choix de politique monétaire, Christine Lagarde nous a dit il y a trois jours, moi je vais monter mes taux durablement. Et ça va continuer. Et on se demande si ce n'est pas au minimum 50 points de base au mois de décembre.
Jacques Delplat a raison de rappeler le mandat de la Banque Centrale Européenne.
Oui, d'accord là-dessus.
C'est 2% d'inflation. Donc on n'y est pas du tout et on n'y est pas ni sur l'inflation totale, ni sur l'inflation cœur, c'est-à-dire quand on enlève tout ce qui est volatile. Et donc je pense que l'augmentation des taux d'intérêt que la Banque Centrale a déjà fait, on est autour de 2% aujourd'hui.
Sur le refinancement.
Elle est évidemment, elle était nécessaire. Elle ne pouvait pas ne pas rien faire parce que il y a aussi la question de la crédibilité de la Banque Centrale et dont on sait qu'elle a un impact sur les anticipations d'inflation, c'est-à-dire est-ce qu'on anticipe qu'on va rester très longtemps sur un taux d'inflation parce qu'on pense que la Banque Centrale justement acceptera un taux d'inflation élevé, et si on fait ça, il y a un aspect un peu autoréalisateur.
On est bien d'accord. Sur ces éléments-là, on est bien d'accord.
C'est-à-dire que si tout le monde anticipe que l'inflation va être à 5%, ben les salaires, les prix choisis par les entreprises,
etc. Par se fixer sur cet objectif.
Donc,
c'est comme le prix d'une action pour une OPA, si vous voulez.
C'est pour ça que je soutiens le fait qu'il fallait augmenter les taux.
Vous dites qu'il fallait, mais la question, est-ce qu'il faut continuer ?
Donc la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à augmenter ? Et là, je serais quand même beaucoup plus prudent. Parce que la concomitance des chocs, en particulier le fait que, certes, le choc d'énergie, il a eu un impact inflationniste, c'est évident. Hein. Mais aujourd'hui, on le rappelait, les différents prix de l'énergie sont plutôt sur... peut penser en tout cas que le choc il est derrière nous, ça ne veut pas dire que ça va se réduire très rapidement. Et puis le choc de l'énergie, il faut toujours penser que c'est un choc inflationniste, mais c'est aussi un choc négatif sur la demande. Les moins 3% de revenus qu'on va avoir, qui sont quand même en partie absorbés par l'État dans la plupart, donc c'est pas moins 3 directement, hein. Il y a la moitié en gros qui est absorbée.
Ça c'est la facture de ce que nous vivons,
voilà.
Les
alors,
3,
y
les 3 4 points
absorbés
de PIB,
par l'État, ce qui fait qu'à la fin, ouais, c'est pas un choc de demande de moins 3.
On est d'accord.
Mais c'est un choc négatif quand même sur la demande, et
OFCE,
d'ailleurs la consommation se réduit. Donc ça va réduire la pression inflationniste. D'ailleurs, on le voit déjà, la consommation oui, plutôt tendance à la baisse. Et donc ça va plutôt faire le jeu d'une réduction de l'inflation. Et par ailleurs, en Europe, on ne voit pas d'explosion des salaires. Il n'y a pas de cercle.
Il y a des belles hausses en Allemagne en ce moment.
Mais les salaires augmentent, mais pas autant que les prix. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas, comme aux États-Unis, le fait que l'inflation dérape du fait d'une surchauffe de l'économie. Il n'y a pas de surchauffe de l'économie en Europe. Or, l'instrument de la Banque centrale, c'est justement augmenter les taux d'intérêt pour réduire la surchauffe de l'économie, pour augmenter, en effet, c'est ce que disait Eric hier, hein, il faut augmenter le chômage, en gros, pour faire pression sur les salaires. Mais ce n'est pas ce dont on a besoin. Donc, moi, je serais prudent. Alors, je ne veux pas faire celui qui est à moitié entre Jacques et Eric, mais j'aurais tendance à dire que, oui, il fallait une augmentation des taux d'intérêt, parce qu'il fallait montrer que la Banque Centrale Européenne n'allait pas laisser déraper.
On est bien d'accord sur le « il fallait », mais la question, c'est jusqu'où.
Mais
voilà,
là, maintenant, je serais assez prudent, parce qu'en effet, l'impact et de ce qui va...
prudent, c'est « je fais pause »,
ça veut dire que je fais
jamais plus de 25.
Oui.
Ah,
une ça pause. Veut dire que je fais une pause.
Votre... Bon.
Mais en revanche, si je vois l'inflation cœur continuer à déraper, là, je me remets à augmenter les taux d'intérêt.
C'est votre position aussi, Eric. Il faut faire une pause. C'est ce qu'a dit récemment, comment il s'appelle, aux États-Unis. Là, il a dit arrêtez tout, Stiglitz. Arrêtez tout. L'inflation va se calmer d'elle-même. Ne montez plus les taux.
Moi, je pense, entre nous, la Banque Centrale, aujourd'hui, ne pilote pas l'inflation à court terme. C'est pas possible. Oui, c'est un choc qui est lié à, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, ça se discute un peu plus, mais en Europe, c'est pas en augmentant les taux d'intérêt qu'on va faire baisser la pression inflationniste à court terme. Non. ça marchera pas. Et même au contraire, alors vous voyez, on fait pas une science
elle
exacte.
Le fera, mais avec un coût alors, économique un coût, très
oui,
élevé.
Mais et ça mettra du temps. Vous voyez, en gros, quand on utilise des modèles macroéconomiques, attention, c'est pas la vérité absolue, mais c'est des simulations. Mais que ce soit celui de la Banque de France, de Mésange et celui de la DG Trésor, celui de l'OFCE ou ceux de la Fed, quand vous augmentez d'un point les taux d'intérêt, oui. Alors, en moyenne, alors, il y a des petites différences, ça fait 0,4 d'activité en moins, d'accord ? Donc ça provoque quand même une récession. Et sur l'inflation, ça fait combien ? Sur les prix, 0,1. Vous rendez compte que vous augmentez de 1 point, vous n'avez que 0,1 de baisse à 2 ans, hein, après à plus long terme. Pour 0,4 d'activité en moins, je veux dire que ça provoque quand même un choc très fort à court terme sur l'activité, très faible sur l'inflation. En revanche, augmenter les taux d'intérêt, me semble-t-il, ça agit sur les... C'est un peu ce que disait Philippe Martin, sur la crédibilité et donc sur les anticipations d'inflation. Et là, moi, il me semble qu'il faut plus ou moins piloter les taux d'intérêt avec les anticipations d'inflation. Aujourd'hui, les anticipations d'inflation à 2 ans ou à 5 ans, globalement, tournent aux alentours en Europe à 2, 3, 2, 4. Donc, ça veut dire qu'on est peut-être au-dessus encore de la cible de 2. Donc, il y a encore une augmentation des taux pour qu'on soit à 2 d'anticipation d'inflation, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le court terme qui doit piloter cela. Et une fois qu'on est à 2, donc nous, il nous semble qu'une augmentation d'accord. des taux jusqu'à 2,75, 3, ça permettrait d'avoir des anticipations d'inflation bien ancrées. Et du coup, bah, globalement, arrêtez là la politique. Si ensuite les anticipations se désancrent et retournent à 3, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, il me semble que ça serait trop, comme ce que je l'entends. Hein. Enfin, certains nous disent qu'il faut qu'en Europe, les taux d'intérêt soient de 5. Mais si vous mettez au début de l'année 2023, mais si vous mettez 5 de taux d'intérêt au début de l'année 2023, alors là, pour le coup, il n'y a aucune crainte pour répondre à votre question. Oui, oui, la récession assurée en Europe.
Et Powell avait dit qu'on allait passer par la case récession et remonter du chômage aux États-Unis. Alors évidemment, quand on est à 3,7% de chômage, on peut peut-être se permettre de le voir remonter un petit peu. Bon, quelque chose à rajouter. On a fait le tour, je crois, de l'histoire. Le portrait social de l'INSEE. L'INSEE a regardé en 2020 et 2021 l'ensemble des baisses d'impôts et l'ensemble des aides exceptionnelles qui ont été délivrées par l'État aux ménages. Ça a rapporté en moyenne en 2021 280 € pour une personne seule et 600 € pour une famille. Mais quand on regarde un peu plus dans le détail, eh bien on voit que la moitié la plus riche de France a gagné 420 € en moyenne. Et la seconde moitié, la moins riche, seulement 130 €. Résultat, hier, en traitant ce sujet pas dans la complexité des chiffres de l'INSEE, parce qu'il n'y a que nous que ça intéresse vraiment, mais sur le message, c'était « Ah ben voilà, Macron, président des riches ». Macron, président des riches, puisqu'effectivement, les mesures prises depuis, qui sont principalement fiscales, et évidemment, c'est les gens fiscalisés qui bénéficient des mesures fiscales, notamment la fin de la baisse de la taxe d'habitation, qui profitait aux 20% les plus riches qui payaient encore cette taxe d'habitation, ça réveille un message politique, Macron, président des riches. Est-ce que cette accusation est fondée ? Qui veut dire un mot là-dessus ? Éric, est-ce que c'est fondé de dire Macron président des riches ?
Oh, non, mais ça c'est un slogan. Mais oui, mais il est évident.
C'est un slogan qui date de 2017, oui, qui est inaliénable.
Hein. Il est évident que lorsque vous décidez de baisser la pression fiscale et, pour pas trop dégrader les déficits, baisser la dépense publique, bien entendu que ça profite plutôt aux déciles aisés qu'aux déciles faibles, parce que qui paye des impôts en termes d'impôts sur le revenu, l'IRPP, vous voyez, si on l'avait fait sur la TVA, ça aurait été une autre histoire, mais quand vous le faites sur l'impôt sur le revenu, bien évidemment que ça aide plus les ménages des déciles 7, 8, 9 que le petit. Donc c'était logique, et baisser la dépense publique par les réformes d'assurance chômage... c'est normal que ça pénalise plus. C'est évident. Donc, moi, il me semble que ce que l'on peut dire...
Oui, c'est évident, mais ça nourrit ce slogan politique.
Oui, d'accord. Après, est-ce que c'est efficace économiquement de le faire ? Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il vaut mieux, si à déficit inchangé, est-ce qu'il vaut mieux baisser la pression fiscale et la dépense publique ou augmenter la pression fiscale et les dépenses publiques ? Oui, ça, c'est... Mais bon, il a été élu sur un programme. Dans ce programme, il y avait baisse des barèmes de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation pour aussi tout le monde. Bon, voilà, le résultat, il est là. C'est bien qu'on le quantifie. Il n'y a pas de trop grande surprise. Moi, il me semble que la difficulté, c'est que ça arrive à un moment, d'accord, d'une crise économique, enfin, d'une crise sanitaire, où finalement, on a voulu préserver, mais ça peut revenir sur le débat, on a voulu préserver quand même, quelque part, le tissu productif et le pouvoir d'achat des ménages en mettant beaucoup de dépenses publiques, d'accord. Et donc... curieusement, c'est pour éviter les faillites qu'on a mis plein d'argent public. Vous voyez, je reviens sur le débat de tout à l'heure, augmenter les taux d'intérêt et faire des faillites, ça serait vraiment du gâchis de tout l'argent public qu'on a mis juste avant. Okay. Mais sinon, ce qu'on a voulu faire pendant cette crise, c'est sauver tout le monde. Quel est le résultat ? c'est que le taux de pauvreté, et c'est ce que nous dit la Fed, n'a pas augmenté. Donc super, bravo. Normalement, pendant une crise économique, le taux de pauvreté, non. En revanche, les inégalités ont augmenté. Par quel mécanisme? Eh ben oui, vous aidez plus les ménages aisés et en plus vous les empêchez de consommer. Ben donc ils ont fait une surépargne et ça c'est le CAE qui a montré que cette surépargne elle allait plutôt dans les ménages aisés. Donc plus de revenus pour les ménages aisés que pour les ménages non aisés. Et normalement pendant les crises, il y a les prix de l'immobilier qui chutent ou les actifs qui chutent. Ben là non, c'est les actifs en plus ont augmenté. Donc un patrimoine immobilier et financier qui ont augmenté, donc
qui ne rentre pas dans le calcul.
Qui ne rentre pas, mais ça vient se rajouter. Et patatras, parce que 2022, il y a une crise inflationniste, et l'inflation, c'est un conflit de répartition, et pénalise plus les ménages du début de la distribution plutôt que de là. Et donc, du coup, tout ça, ben, moi, ce n'est pas président des riches qui m'inquiète, c'est plutôt est-ce qu'on n'est pas, si demain on se dit il faut réduire les déficits par des baisses de dépenses dans le bas de la distribution, est-ce qu'on n'est pas, avec le retour, surtout sur une fiscalité carbone, à une crise sociale qui nous attend, un retour des gilets jaunes? C'est plutôt ça, moi, qui me dérange.
Philippe Martin et Jacques, on vous a pas beaucoup entendu depuis le début de l'émission.
Là-dessus, je suis...
Vous n'avez pas d'avis?
Si, je suis fasciné parce que... de ce débat. Parce que si l'État, c'est juste un truc où on regarde ce que je gagne, ce que je... Le cœur du sujet, c'est l'efficacité de l'État. Est-ce que ça rend les services... l'hôpital, c'est catastrophique. L'école, ça dégringole.
Non, mais voilà,
c'est ça le vrai sujet.
Mais le vrai sujet,
On s'en fout que c'est vraiment à la marge.
Non.
Et si les gens considèrent que la seule chose qui compte, c'est les inégalités à la sortie du tiroir caisse de l'État, ben dans ce cas-là, on a qu'à tout privatiser et ils se débrouillent. Si c'est vraiment ça qu'ils veulent, et ils payent. C'est pas ça que je veux. Mais si les gens qui font que de, surtout à gauche, regarder les trucs, ben dans ce cas-là, on arrête tout et on fait juste un truc plus ou moins avec la somme est égale à zéro. Voilà.
C'est vrai que ce thème des inégalités anime énormément les débats en France, comme le salaire des patrons, qui est un truc très très français et qu'on retrouve pas forcément dans tous les pays. Un mot peut-être de teasing, mais on a 50 secondes, Philippe Martin, sur ce portrait social de l'INSEE et la conséquences dans la lecture politique qu'on peut en faire.
Non, juste peut-être un point spécifique sur les aides dans la crise énergétique. Mmh. En effet, nous, ce qu'on avait montré, que c'est difficile en fait de cibler les aides sur les personnes qui ont le plus besoin, parce que la question, c'est pas seulement les inégalités en termes de revenus, c'est aussi les inégalités en termes d'équipement, les inégalités en termes de localisation. Et donc, en effet, quand on dit, par exemple, le choc énergétique, c'est moins 3% de revenus, après, c'est la question qui paye. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Pour la moitié, c'était à peu près l'État, puis après, il y a les ménages. Mais après, on peut se poser la question, dans les ménages, lesquels on fait payer davantage? Et c'est là où je suis en désaccord avec Delplat, parce que je pense que, de ce point de vue, il va falloir se poser la question, qui, à l'intérieur des ménages, on fait payer davantage?
Très bonne question.
Ou moins. Et on peut revenir là-dessus.
Je reprends cette question, excellente question, effectivement.
Avec ce que dit Philippe.
Oui, mais je ne sais pas quel est le pourcentage qui est sur les épaules des ménages aujourd'hui, on verra ça peut-être avec Eric, parce que je sais que vous avez décortiqué ça. On répond à cette question, après on va regarder votre réforme des retraites, Jacques Delplat. Vous avez une proposition. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais proposé, donc on verra ce que vous en pensez.